Mark Twain, La Chicago allemande. Je me sens perdu à Berlin. Cette ville ne ressemble en rien à la conception que je m'en étais faite. Le Berlin d'autrefois, je l'aurais reconnu aux descriptions des livres. Le Berlin du siècle dernier et du commencement du nôtre. Une ville sale, bâtie sur des marais, aux rues étroites et boueuses, éclairée par des lanternes sur lesquelles s'alignaient des vieilles et vilaines maisons, toutes pareilles les unes aux autres. Les maisons formaient des rectangulaires aussi droits et monotones que les rayons d'un magasin de nouveautés. Mais ce Berlin-là cessait de vivre. Il semble avoir disparu sans laisser aucune trace. Les dimensions du Berlin actuel ne donnent aucune idée de la ville qui l'a précédé. Sa situation géographique a des traditions et une histoire, mais la cité elle-même ne représente plus rien de tout cela. C'est une ville neuve, la plus neuve que j'ai jamais vue. Chicago paraîtrait antique à côté d'elle, car on voit encore des vieux quartiers à Chicago, tandis qu'il n'en existe pour ainsi dire plus à Berlin. La partie principale de la ville semble avoir été bâtie la semaine dernière. Le reste, avec beaucoup de bonne volonté, pourrait remonter à 6 ou 8 mois d'existence au plus. Un autre trait qui frappe le voyageur, c'est la grandeur de la ville. Il n'existe pas d'autre ville en aucun pays qui possède de si larges rues. Berlin n'est pas une ville, mais la ville aux grandes artères. Et pas une autre au monde ne peut lui être comparée sous ce rapport. Unter den Linden, représentant largeur, la valeur de 3 rues, à Potsdamstrasse, est bordée de chaque côté par des contre-allées qui offrent elles-mêmes plus de largeur que les rues principalement connues des vieilles capitales de l'Europe. Il n'y a ni rues étroites, ni passages, pas de raccourcis. De loin en loin, si quelques grandes artères aboutissent au même carrefour, le périmètre de ce carrefour est tel qu'il évoque un sentiment de grandeur majestueuse. Le parc au centre de la ville est si vaste qu'il donne la même impression. Un second trait caractéristique, les rues sont tirées au cordeau. Les plus courtes n'ont pas la moindre courbe. Les plus longues s'étendent droites à l'infini. Elles s'infléchissent légèrement à droite ou à gauche et elles reprennent ensuite leur rectitude à perte de vue. Le résultat de cette configuration fait qu'à la nuit, Berlin offre un coup d'œil magnifique. Le gaz et l'électricité sont dépensés largement, de sorte que, de quel côté qu'on se tourne, on a partout devant soi une double rangée de réverbères puissants, avec ça et là une magnifique gerbe lumineuse qui éclaire les Platzen. Et entre ces interminables rangées de lumière, on voit aussi les innombrables lanternes des fiacres qui ajoutent gaiement leur note claire à ce beau spectacle. Elles donnent l'idée d'une invasion de verre luisant. Une chose encore vous frappe à Berlin, c'est la situation absolument plane de la ville. En résumé, la ville est plus neuve à l'œil qu'aucune autre, plus éclairée et plus ordonnée. Pas une autre cité n'a l'air aussi spacieuse et n'est mieux à l'abri des encombrements. Pas une n'offre autant de rues droites et Berlin peut facilement disputer à Chicago la platitude de son aspect comme aussi la prodigieuse rapidité de son développement. Berlin est la Chicago européen. Les deux villes sont à peu près la même population, environ 1500 000 habitants. Je ne puis donner des chiffres plus précis car je sais seulement la population que possédait Chicago l'avant-dernière semaine. Et à ce moment, elle était 1,5 million. Il y a 15 ans, Berlin et Chicago passaient certainement pour 2 grandes villes, mais aucune d'elles n'était la ville géante actuelle. Et là s'arrête le parallèle. Quelques quartiers de Chicago seuls sont grands et bien percés, tandis que Berlin paraît partout imposant et grandiose. La ville est uniformément belle. À Chicago, il existe des monuments plus remarquables par leur architecture que ceux de Berlin. Mais malgré cela, ce que j'ai dit plus haut est encore exact. Ces deux villes plates seraient les premières pour leur salubrité surprenante, s'il fallait compter avec Londres. À l'heure actuelle, Londres en le premier rang. La mortalité de Berlin représente seulement 19%. Il y a 14 ans, elle était d'un tiers plus élevée. Berlin est une ville à surprise, sous bien des rapports. C'est la ville la plus gouvernée du monde. Mais il faut admettre aussi qu'elle est la mieux gouvernée. On peut y admirer l'ordre et la méthode qui règnent partout, dans les grandes comme dans les petites lignes, dans les détails, même les plus minimes. Il ne s'agit pas d'un ordre, d'une méthode théorique existant seulement sur le papier, mais bien dans la réalité, dans toute l'acception du terme. Il y a une règle pour tout, et cette règle s'applique invariablement aux riches comme aux pauvres, sans préjugés ni faveurs. Elle agit avec une égalité parfaite dans les grandes circonstances comme dans les petites, avec une diligence clairvoyante et soutenue, jointe à une persévérance très digne d'admiration. Il existe plusieurs impôts qui sont recueillis trimestriellement. Recueillis est bien le mot, plutôt que levés, car ils sont recueillis chaque fois. Les impôts ne sont d'ailleurs pas exorbitants, excepté dans les villes et les contrées où les habitants font des difficultés pour les payer. Dans ce cas, on les majore et la police se charge, par des visites calmes et fréquentes, de vous faire acquitter la taxe. Elle vous demande 20 ou 24, 40 pfennigs par visite après le premier avis. Et au bout d'un certain temps, vous vous apercevez qu'elle a fini par percevoir la somme en question. Sous un certain rapport, les 1 500 000 habitants de Berlin forment une grande famille. La tête connaît les noms des différents membres, leur demeure, leur lieu de naissance, leurs moyens d'existence et leur religion. Toute personne qui arrive à Berlin est tenue de fournir immédiatement tous ces détails à la police. Et de plus, si elle sait combien de temps elle doit y séjourner, elle doit l'en prévenir également. Si elle loue une maison, elle sera imposée d'après le loyer et d'après ses revenus. On ne lui demandera pas de déclarer son revenu, de sorte qu'elle pourra réserver ses mensonges pour une meilleure occasion. La police l'estimera d'après le loyer qu'elle paye et prendra ce chiffre pour base de son imposition. Les droits sur les articles importés sont acquittés avec une exactitude inflexible, que la somme soit grande ou petite. Mais le procédé employé pour y arriver est plein de douceur et d'esprit de tolérance. Le facteur fait toutes les démarches pour vous, si le colis arrive par le courrier, et vous n'avez ni difficulté ni ennui. Dernièrement, un de mes amis apprit qu'il était arrivé à la poste à son adresse un colis contenant une ceinture de soie avec une boucle d'or pour dame, une chaîne d'or également pour y accrocher des clés. Dans le premier moment de son agitation, il voulut suborner le facteur pour esquiver les droits, mais il se décida à laisser l'affaire suivre son cours régulier. Un instant après, le facteur apporte le colis avec la liste des droits à percevoir. Droit sur la ceinture de soie, 30 pfennigs. Droit sur la chaîne d'or, 40 pfennigs. Droit pour la commission, 20 pfennigs. Ces impôts exorbitants sont levés pour la protection des industries locales allemandes. La ténacité calme, paisible et polie de la police est la chose la plus admirable que j'ai jamais vue dans cet ordre d'idées. On imagina de me demander le passeport d'un camériste suisse que nous avions amené. Et après 6 semaines de visites réitérées avec une patience angélique, la police arriva à ses fins. Je n'avais nulle intention de lui causer des ennuis, mais je comptais que la police se lasserait. Elle en pensait autant sur moi de son côté, et bien lui en prit. À Berlin, il est interdit de construire des maisons mal assises, dangereuses, déplaisantes à l'œil. Ceci vous explique pourquoi cette ville est remarquablement belle et imposante, pourquoi elle se défend mieux que d'autres contre les incendies et les déboulements. L'architecture qu'on y préfère est celle de Gibraltar. Les inspecteurs des bâtiments surveillent les constructions. Le système paraît préférable pour éviter les effondrements. Ce peuple allemand est vraiment pétri de manie. Il est défendu de parquer les pauvres dans des maisons étroites et malsaines. Chaque individu doit avoir un nombre calculé de mètres cubes d'air et des inspections sanitaires obligatoires s'en assurent. Tout est prévu. Le corps des pompiers est très discipliné, un uniforme curieux, leur tenue austère les fait ressembler à l'armée du salut. On m'a raconté que lorsque le tocsin sonne, les pompiers se réunissent en bon ordre, ils répondent à l'appel puis vont au feu. Là, ils sont alignés militairement, forment des détachements désignés par leur chef, qui assigne à chacun des groupes le travail qu'il devra faire pour éteindre l'incendie. Tous les ordres sont donnés à voix basse, de sorte que les spectateurs pourraient s'imaginer qu'ils assistent à un enterrement. En général, dans ces grandes constructions en briques et en pierre, on localise l'incendie à un seul étage. Cela permet aux autres habitants de l'immeuble de voir venir les événements sans s'affoler. Il y a abondance de journaux à Berlin. Il existait aussi un vendeur de journaux, mais il est mort. Alors on trouve des kiosques environ à chaque demi-kilomètre dans toutes les rues principales. Et c'est là qu'on peut acheter ces journaux. Les théâtres foisonnent, mais ils ne font pas une réclame tabageuse. Pas d'affiches sur les murs, pas d'annonces à gros caractères, pas de photographies d'acteurs et de scènes présentées dans des cadres sensationnels et reproduites sous des couleurs suggestives. Cet étalage est chose inconnue à Berlin. Si les grandes affiches existaient, on ne saurait où les apposer, car il n'existe pas de salle, de pas perdu, et on défend formellement de placarder les murs de la ville. Tout ce qui choque l'œil est prohibé, mais Berlin est un repos pour l'œil. Et pourtant, le flâneur peut savoir sans peine ce qui se passe au théâtre. Partout et très rapprochés les uns des autres, on rencontre des piliers ronds d'environ 18 pieds de haut et gros comme un muis, sur lesquels sont affichés les programmes et autres notices théâtrales. On trouve habituellement autour de ces piliers un groupe de badauds qui lisent avidement les affiches. Il y a décidément à Berlin une masse de choses qui mériteraient d'être importées en Amérique. Je les ai d'ailleurs notées avec beaucoup de soin. Lorsque Buffalo Bill faisait sa tournée en Allemagne, son affiche principale n'était sans doute pas plus grande qu'une étiquette à apposer sur une malle. Il y a une forte quantité d'omnibus à chevaux, très propres et confortables. Mais si vous imaginez savoir où va une de ces voitures publiques, vous vous trompez étrangement. Vous feriez bien mieux d'en descendre, car va certainement pas dans la direction que vous supposiez. Ces routes carrossables sont très compliquées à connaître, et souvent, lorsque les conducteurs s'y perdent, on n'entend plus parler d'eux pendant des années. Aucun écriteau sur l'omnibus n'indique que son itinéraire. On ne mentionne que le point terminus. Puis la route prise est celle qui convient le mieux au conducteur. Ce dernier cherche à faire le plus de chemin possible avant d'arriver au but. Le conducteur vous fera payer votre place plusieurs fois toutes les deux ou trois lieues. Et chaque fois, il vous donne un ticket dont il n'a évidemment pas gardé le talon. Vous le conservez jusqu'à ce qu'un inspecteur passe et en déchire un coin qui ne garde pas. Puis vous jetez votre ticket et vous pouvez vous préparer à en payer un autre. Inutile d'avoir de l'intelligence lorsque vous essayez de circuler dans Berlin en omnibus. Lors de sa venue à Berlin, un des éditeurs les plus malins de Brooklyn prit un omnibus de très bon matin et essaya en vain d'arriver à un point central de la ville. Impossible. Il dépensa beaucoup de dollars en billets et ne put gagner l'endroit où il voulait aller. C'était certainement le meilleur moyen de connaître Berlin, mais assurément pas le plus économique. Malgré ses inconvénients, le système d'organisation des omnibus a du bon. La voiture ne s'arrête pas pour vous laisser monter ou descendre en dehors de certaines haltes. Là seulement, un poteau vous indique que c'est une station d'arrêt. Le système évite d'ailleurs bien des fractures de jambes. Il y a 20 places à l'intérieur, et aussitôt qu'elles sont occupées, personne ne peut plus entrer. Il reste 4 ou 5 places debout sur chaque plateforme. Un décret en fixe le nombre, et lorsqu'elles sont prises, on n'accepte plus aucun voyageur. Comme il n'y a jamais cohue et que le tapage est interdit, les femmes vont sur la plateforme comme les hommes. Et bien souvent, elles préfèrent ces places à celles de l'intérieur parce qu'elles sont confortables et qu'on ne sent aucun chaos. Un Berlinois me raconte que, lorsque parut le premier omnibus, il y a 30 ou 40 ans, le public avait tellement en grippe qu'il ne consentait à monter ni à l'intérieur ni à l'extérieur, et qu'il força la compagnie à poster à chaque croisement de rue un homme armé d'un drapeau rouge. Personne ne voulait circuler dans les voitures publiques, excepté les condamnés à la potence. Il résulte de cet état de choses que les omnibus étaient fréquentés dans une seule et unique direction, et qu'on les voyait toujours vides au retour. Pour sauver la compagnie, le gouvernement transféra le cimetière des criminels à l'autre extrémité de la ligne. On vit alors des voyageurs dans les deux directions. Ainsi, la compagnie ne fit pas faillite. Ce racontard ressemble à ce qu'on fait aux étrangers en Amérique, et ne me dit rien qui vaille. Le fiacre de première classe est propre et coquet. Il y a des coussins, de cuir et un bon cheval. Le fiacre de deuxième classe est généralement laid et lourd, toujours vieux. Il semble curieux qu'on n'en ait jamais construit de neuf. Du reste, si pareil événement se produisait, tous les désœuvrés se précipiteraient pour jouir du spectacle. Or, la police interdit les attroupements et les désordres. S'il arrivait un tremblement de terre à Berlin, la police interviendrait immédiatement et organiserait tout avec une telle précision qu'on se figurait assister à une cérémonie religieuse. C'est d'ailleurs ainsi que se terminent en général les tremblements de terre, mais dans le cas qui nous occupe, tous les assistants prieraient avec calme et recueillement, et chacun pour des intentions particulières. Pour une course d'un quart d'heure au moins, on donne un mark à un fiacre de première classe et 60 pfennigs à un de deuxième. Le premier vous mènera plus vite que le second, toujours attelé d'un vieux cheval, aussi vieux que la voiture, disent les autorités, malade et mal nourri. Il fut de première classe, puis il déchut au rang de seconde classe par reconnaissance pour ses lourds et fidèles services. Pourtant, pour 60 pfennigs, il doit vous mener aussi loin que le cheval de première classe, à un mark. S'il ne peut pas effectuer sa course en un quart d'heure, il doit la faire malgré tout pour 60 pfennigs. Le premier étranger venu peut vérifier les distances au moyen de la carte la plus curieuse que je connaisse. Elle est publiée par le gouvernement et s'achète à très bon marché dans tous les magasins. Chaque rue est indiquée et divisée comme un chapelet de perles de couleur. Chaque perle longue représente un trajet d'une minute. Et lorsque vous avez dépassé 15 perles, vous en avez pour votre argent. La carte de Berlin est un labyrinthe aux couleurs les plus gaies. Elle ressemble à une planche de la circulation du sang. Les rues sont très propres. Elles sont bien tenues, non à la manière fantaisiste des rues de New York, mais au moyen de ratissoirs et de balais qui fonctionnent à heure fixe. Et lorsqu'une rue a été scrupuleusement nettoyée, après la pluie ou une légère couche de neige, on y jette du sable, ce qui évite les chutes des chevaux. En somme, Berlin est une capitale qui ne regarde à aucune dépense lorsqu'il s'agit des convenances des particuliers, de leur confort et de leur santé. Il faut cependant excepter un détail, celui des noms et des numéros des rues. Quelquefois, le nom d'une rue change au beau milieu d'une artère, entre les maisons d'un même pâté. Vous vous en apercevez qu'en arrivant au coin suivant, en voyant une nouvelle plaque au mur, et bien entendu, vous ne savez pas à quel endroit a eu lieu ce changement. Les noms sont placardés lisiblement à tous les coins de rue, sans exception. Mais le numérotage des maisons constitue ce qu'on peut imaginer de plus original après le chaos du commencement du monde. Il semble impossible de croire qu'il ait été inventé par un gouvernement aussi pondéré. Au début, on s'imagine que ce numérotage est l'œuvre d'un idiot. Mais un idiot n'aurait pas été capable de trouver autant de variétés dans la confusion et de provoquer autant de jurons d'impatience de la part du public. Les numéros montent dans un sens et descendent dans l'autre. Ceci serait encore admissible, mais ce qui suit ne l'est pas. On emploie souvent le même numéro pour trois ou quatre maisons. D'autres fois, une seule maison est surnumérotée. Pour les autres, devinez si vous pouvez. Quelquefois, on met un numéro sur une maison, le numéro 4 par exemple. Puis vous trouvez le 4A, le 4B, le 4C sur les maisons suivantes. Et avant d'arriver au numéro 5, vous avez le temps de devenir vieux et décrépit. Il résulte de ce système, qui n'en est pas un, que lorsque vous partez du numéro 1 d'une rue, vous ne pouvez savoir même approximativement à quelle distance se trouve le numéro 150. Il peut être à quelques pas de cette maison, ou à 2 lieues plus loin. La Friedrichstrasse est longue et représente une des plus grandes voies. Il y a quelque temps, quelqu'un paria son porte-monnaie qu'on rencontrait dans cette rue plus de brasseries que de numéros. Et il gagna son pari. Il y avait 254 numéros et 257 brasseries. Oh, il ne faut pas oublier que la rue est longue. Le pire de cette organisation défectueuse est que les numéros ne suivent pas toujours la même direction. Ils vont par exemple du numéro 1 au numéro 50 ou 60. Puis brusquement, vous trouvez les centaines. Le numéro 140, si vous voulez, ensuite viendra le 139. Alors vous vous apercevez que les numéros prennent une autre direction. Cela durera un certain temps, puis brusquement, sans que vous y pensiez, ils changeront de sens. Habituellement, une flèche placée sous le numéro nous indique la direction ascendante. Il y a bon nombre de suicides à Berlin, quelquefois 6 dans une même journée. Pour en expliquer la cause, on ergote, on discute sur bien des chiffres. Si l'on se décidait à numéroter les maisons d'une manière rationnelle, peut-être trouverait-on une sorte de solution, ou tout au moins un remède à ces suicides. Il y a environ un mois, on se préparait à célébrer à Berlin le 70e anniversaire du professeur Virchow. Lorsqu'arriva cette date, le 15 octobre, il me sembla que tout le monde scientifique s'était donné rendez-vous. Les députations se succédèrent, apportant aux héros l'hommage et le respect de toutes les villes, de tous les centres savants. Pendant cette inoubliable journée, Virchow reçut l'encens offert à son mérite avec une pompe inconnue à tout homme des temps modernes comme de l'Antiquité. Ces démonstrations se prolongèrent et finirent par se confondre avec celles qu'on destinait aux jumeaux scientifiques de ce personnage, au professeur Helmholtz, dont l'anniversaire n'était séparé que de 3 semaines de celui du professeur Virchow. J'imagine que la clôture de ces fêtes fut particulièrement agréable à nos deux savants. 1 000 étudiants leur offrirent un banquet somptueux qui eut lieu dans un grand hall, long et spacieux, divisé dans le haut en 5 galeries, où environ 400 à 500 dames prirent place. La décoration magnifique consistait en faisceaux de drapeaux, en écusson aux devises variées, et l'illumination fut des plus brillantes. Tout le long de la salle étaient rangées les tables de 24 couverts, peu éloignées les unes des autres. Au centre et sur les côtés, on avait monté une estrade haute et richement décorée de 25 ou 30 pieds de long, que surmontait une grande table à laquelle prirent place les six principaux organisateurs du banquet. Ils portaient les costumes du Moyen-Âge, représentant leurs différentes corporations. Derrière ces jeunes gens, une bande de musiciens était dissimulée. En bas, juste devant l'estrade, une demi-douzaine de tables ornées de distinguées des autres qu'on avait laissées libres. La plus centrale de ces dernières était réservée aux deux héros de la fête et aux 20 professeurs les plus éminents de l'université de Berlin. Les autres tables ornées étaient destinées à une centaine de professeurs plus modestes. J'eus l'honneur d'être admis à la table des deux héros de la fête, quoique mon érudition ne me donna aucun droit à cette insigne faveur. Certes, j'éprouvais un plaisir étrange à me trouver en pareille compagnie et à m'associer ainsi à 23 savants qui peuvent se permettre d'oublier un jour plus de choses que j'en pourrais apprendre durant toute ma vie. Cependant, je me trouvais nullement embarrassé, car un homme instruit et un ignorant se ressemblent terriblement. Je savais, de plus, qu'aux yeux de cette foule, je passais pour un érudit. Il me fallut qu'un peu d'attention pour prendre et imiter les poses et les aptitudes de ces grands hommes, et je réussis sans peine à paraître aussi professeur que les professeurs qui m'entouraient. Nous arrivâmes de bonne heure, de si bonne heure même que seuls les professeurs Virchow et Lindholz nous avaient devancés avec 300 ou 400 étudiants. Mais les invités arrivèrent à flot, et en un quart d'heure, toutes les tables furent garnies et la salle complètement bondée. On prétendit qu'il y avait là 4000 personnes. La scène était certes très animée et donnait l'illusion d'une ruche immense. À chaque extrémité de chacune des tables siégeait un étudiant dans le costume de corporation. Ces costumes sont en soie et en velours. La coiffure consiste en un chapeau à plumes ou un large béret écossais entouré d'une grande plume. Le plus souvent, on a un tout petit bonnet de soie posé sur le sommet de la tête, comme une soucoupe renversée. Quelquefois, les culottes sont d'un blanc éblouissant, quelquefois, elles sont d'autres couleurs, mais dans tous les cas, les bottes montent au-dessus du genou et les gantelets blancs sont de rigueur. En guise d'épée, une rapière dont la garde arrondie comporte différentes couleurs. Chaque corporation possède un uniforme spécial. Tous sont faits des plus belles étoffes, d'un coloris brillant et d'un pittoresque achevé. Ces costumes sont les derniers vestiges du Moyen-Âge, et ils caractérisent pour nous l'époque où les hommes étaient beaux à contempler. L'étudiant, qui présidait au bout de notre table, avait l'air grave et solennel. Sa haute silhouette ne manquait pas de grâce. Sans nul doute, il ressemblait de très près à un de ses ancêtres. Il personnifiait dans tout son ensemble le type accompli du Moyen-Âge. Comme je l'ai déjà dit, la salle était comble. Un des bas-côtés était bondé d'étudiants qui, en se levant, formèrent une haie et nous empêchèrent de voir ce qui se passait derrière eux. Cependant, aussi loin que pouvait s'étendre dans la vue, on remarquait que tous les jeunes visages étaient tournés dans la même direction, que tous les yeux avides et impatients étaient braqués sur la place occupée par M. Helmholtz. Tous ces jeunes gens paraissaient absorbés dans leur contemplation. Ils ne quittaient pas des yeux les deux grands hommes, et cette sorte d'extase était pour eux un vrai régal. Cette auréole de gloire, avec son caractère paisible et sincère, était à mon avis mille fois plus enviable qu'une grande victoire achetée au prix de combats acharnés et d'une désolante effusion de sang. Un verre de bière était passé devant chacun de nous, et on pouvait le faire remplir à discrétion. On distribuait aussi une petite brochure contenant les vers qui allaient être chantés. Et au-dessous des noms des dignitaires de la fête, on lisait ces mots imprimés en gros caractères: Byron des Commerces, Erstalgelmer, Burgfried. Comme j'étais très capable de les traduire avec la poésie locale, un professeur me prêta son aide et voici ce qu'il m'expliqua. Les étudiants appartiennent à différentes sociétés universitaires, mais pour faire partie de leur corporation, il faut aimer les exercices physiques et l'escrime. Ceux-ci organisent des duels au sabre toutes les semaines, et chaque corporation est tenue de fournir un certain nombre de duellistes pour la circonstance. Chose à noter, c'est seulement sur le terrain que les étudiants de différents corps se font des politesses. Dans la vie usuelle, ils ne se parlent jamais, ils ne boivent pas ensemble. Aussi la phrase en question signifie-t-elle « Il y a armistice pendant le banquet, trêve à la guerre et place à la camaraderie. » La fête commença, l'orchestre dissimulé joua une marche militaire, puis il y eut une pause. Les étudiants de l'estrade se levèrent, ceux du centre burent à l'empereur, puis toute la salle se leva, les vers en main. Au commandement 1, 2, 3, ils furent tous vidés d'un seul trait et posés bruyamment et en cadence sur les tables, en donnant l'illusion d'un grondement de tonnerre. À partir de ce moment, et pendant une heure, on chanta des chœurs à tue-tête. Après chacune des chansons, un petit nombre d'invités, les professeurs, arrivèrent par groupe. Comme ils étaient prévenus, comme s'ils étaient prévenus par un signal convenu, les étudiants de l'estrade saluèrent l'entrée du professeur. Ils se levèrent tous en même temps, dans une attitude militaire, les talons réunis et dégainèrent leurs sabres. Tous les étudiants de garde à chacune des innombrables tables en firent autant. Cette attitude martiale donnait à la fête un éclat inusité. Un clairon fit entendre trois appels. Les sabres s'abaissèrent bruyamment par deux fois sur les tables, puis ils furent relevés. Aussi loin que l'œil s'étendait, on apercevait les uniformes aux couleurs voyantes et les sabres ou clairs de la garde honneur qui formaient la haie au passage de chaque invité. Les chants étaient très poignants. L'exubérance de ces jeunes poitrines, le bruit des sabres, le choc des verres à bière impressionnaient fortement l'assistance. Je croyais pourtant que le délire de cette assemblée avait atteint son maximum, mais j'eus de nouvelles surprises lorsque le dernier invité de haute marque eut pris possession de sa place. De nouveau, les trois appels du clairon se firent entendre, les sabres furent tirés de leur fourreau. Mais qui pouvait bien être ce dernier arrivant? Les yeux des assistants se tournèrent instinctivement vers l'entrée. À ce moment, la garde d'honneur, dans son uniforme brillant et le sabre au clair, se fraya un chemin à travers la foule. Puis nous vîmes au fond de la salle tous les étudiants se lever comme un seul homme, comme un flot puissant de la marée, à mesure que la garde avançait. Jamais pareil honneur n'avait été rendu à personne. Un murmure parcourut notre table. « C'est Mommsen !» Et toute la salle se leva, criant, piétinant, applaudissant, entrechoquant les verres. C'était un véritable ouragan. Le petit homme au visage émersonien et aux cheveux flottants passa près de nous en gagnant sa place. Oh, j'aurais presque pu le toucher, cet homme célèbre, Mommsen. Quelle prodigieuse surprise! Son apparition causa une de ces émotions inattendues qui se produisent rarement dans une vie. J'étais bien loin de songer à lui. Il m'apparut comme un mythe gigantesque, un spectre immense qui couvre le monde de son ombre, et non comme une réalité. Mon étonnement peut seul être comparé à celui qu'éprouve le voyageur lorsqu'il approche du Mont Blanc et voit subitement son sommet se dresser vers le ciel, sans se douter qu'il en était si près. Oh, j'aurais parcouru bien des lieux pour voir ce grand homme. Au lieu de cela, il était venu à moi, je le contemplais aujourd'hui, sans le moindre effort. C'était bien lui, vêtu avec une simplicité étonnante, qui le distinguait par des autres hommes. Il était là, englobant dans son cerveau le monde romain et toutes les Césars de l'Empire, avec la même facilité que la voûte céleste porte la voie lactée et la constellation. Un des professeurs raconta qu'autrefois, une jeune américaine, présentée à Mommsen, se trouva devant lui effarée et muette. Elle était terrorisée à la pensée que ses lèvres allaient s'entr'ouvrir pour aborder un sujet qu'elle ignorait totalement et qui dépassait sa compréhension. Elle ne pouvait supposer qu'un tel génie fût capable de s'abaisser jusqu'à terre, jusqu'au terre-à-terre du commun des mortels. Mais lorsqu'elle entendit ces paroles simples, « Eh bien, comment allez-vous? Avez-vous lu le dernier livre d'Orwell? Il me paraît très bon. » Ses préjugés disparurent. Les solennités de la soirée se terminèrent par des discours de bienvenue prononcés par deux étudiants auxquels répondirent les professeurs Virchow et Helmholtz. Virchow a fait partie pendant longtemps du gouvernement municipal de Berlin. Il travaille autant que tout autre échevin de la ville et reçoit le même salaire, c'est-à-dire rien. Je le sais, si nous pourrions nous arrisquer à demander en Amérique à nos plus illustres citoyens de faire partie du conseil municipal, en admettant qu'ils acceptent, nous ne serions pas sûrs de pouvoir les élire. Mais ici, l'organisation municipale est telle que les gens les mieux posés de la ville considèrent comme un honneur de remplir sans rémunération les fonctions d'échevin. Et les électeurs ont d'ailleurs le bon goût de les nommer d'année en année. Il en résulte que Berlin est admirablement administré. C'est une ville libre dont les intérêts ne se confondent pas avec ceux de l'État. Ils sont régis par les citoyens eux-mêmes et d'après les systèmes de leur choix.